Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Nouvelles Portes, épisode 2 de la saison 2. La dernière fois, on était avec Flavien, on a pu explorer un petit peu les dimensions de l'entrepreneuriat, on a pu rationaliser à fond le fonctionnement de nos systèmes et puis réfléchir en profondeur à la société. Et aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, je reçois Jordan et je ne vais pas trop en dire, je vais vous laisser découvrir justement au fil de cette discussion cette personnalité très surprenante, quelqu'un de très curieux lui aussi, qui a exploré énormément de dimensions, des dimensions du rationnel, mais aussi des dimensions de l'irrationnel, de l'inconscient, de l'imaginaire, du rêve, de la musique qui vous fait voyager, de la conscience des cellules jusqu'à la conscience de l'univers. Voilà, Jordan est un grand explorateur de la vie dans son sens le plus large et quelqu'un de très enjaillé et de très joyeux en profondeur. Et il a su me donner justement toute cette énergie durant notre podcast et j'espère que l'enregistrement va pouvoir le transmettre parce que c'est un peu la conclusion sur laquelle on est arrivé, c'est que voilà, ces discussions informelles, ces discussions spontanées, si elles sont construites ainsi, c'est pour arriver à toucher à ça, à toucher à ces moments de grâce où deux êtres humains sont en train d'échanger au-delà des mots, aussi également ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont au fond d'eux. Vous allez le voir, cet épisode se décompose justement en une belle discussion, un beau développement avec Jordan, et une dernière partie en musique et en méditation, spécialement pour vous, pour pouvoir terminer sur une note totalement introspective, totalement personnelle et en totale détente. J'en dis pas plus, je vous laisse profiter de cette très belle discussion et je vous laisse rencontrer Jordan. À tout à l'heure. Hello Jordan et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nouvelle Porte. On est pour changer à Sofa, vu que j'y suis très souvent. Mais là, on a la petite pièce duo réservée juste pour nous. Et donc, on va pouvoir se lancer dans cette heure, peut-être heure et demie de discussion complètement spontanée. Et donc, comme je disais dans le dernier épisode, il y a plus de trois sujets de curiosité pour se raccrocher si jamais dans le fil de discussion il y a besoin de matière. Là maintenant, on laisse et on déroule et on voit ce qui vient.
Ça peut-être durer toute l'après-midi alors.
Ça peut peut-être durer toute l'après-midi. Il faudra qu'on voit si on arrive à en faire une quintessence dans 1h30. J'ai bien envie de commencer comme j'ai fait la dernière fois avec Flavien, si tu me permets, pour qu'on puisse te connaître un petit peu déjà toi personnellement. Ça ressemble à quoi une journée type de Jordan?
Ok.
Le matin, après que tu te lèves, qu'est-ce qui se
Ok,
passe?
alors déjà, je commence ma journée par une douche froide, bien gelée, enfin au maximum du froid.
Ok, tous les
Donc,
jours?
ouais, tous les jours, et je vais sous l'eau et je me dis, cette eau me purifie dans ma globalité. Donc, c'est comme si je me répète renaissance, comme si du coup par l'eau, voilà, je commence une nouvelle journée et que je laissais circuler, je laissais aller le passé, ce qui est encombrant, ce qui est lourd. Et je commençais ma journée. Du coup, ça me permet de. En fait, ce qui est bien avec ça, c'est que ça me permet vraiment de m'ancrer dans l'instant, d'être vraiment très ancré dans l'instant présent en commençant la journée. Parce que quand tu vas sous l'eau froide, tu peux pas penser, tu peux pas avoir 1000 pensées dans la tête. Donc, bref, tu commences comme ça, et puis après, je fais mes 5 tibétains, 5
5
postures
tibétains,
de yoga
5 postures de yoga, ok.
pour m'étirer le corps, et ensuite, je médite un petit peu. Je médite dans le silence, assis, en focalisant sur ma respiration, et dès qu'il y a des pensées, dès que je vais essayer de résoudre des problèmes ou je suis dans les projections, je me recentre.
Et combien de temps ça du coup?
Et du coup, il n'y a pas de timer en fait, c'est vraiment
Ouais, comme
en
tu le sens.
fonction,
D'accord.
comme je le sens. Mais généralement, c'est 15 minutes à peu près.
Ok.
Donc voilà, et après ça, je vais me faire. J'ai l'impression de faire vraiment toute ma routine décortiquée, mais. En gros, voilà, ça c'est vraiment le rituel. Enfin, après la méditation, j'écris 10 minutes sur un sujet. Voilà, j'improvise ou voilà, j'ai juste. C'est une routine que je me suis mise, c'est 10 minutes d'écriture au réveil. Et après, je commence mes activités, je commence ma journée vraiment.
D'accord. Et ça te
Et à
prend combien
chaque
de
fois,
temps,
c'est
ça,
chiant.
en tout, à peu près,
Je sais pas,
cette
peut-être
routine
une
matinale?
heure, une heure
Ok.
peut-être.
Et t'arrives à vraiment la tenir régulièrement tous les
Oui.
matins? Ok.
Bah. C'est vrai que la méditation, ça fait plus de. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça. J'ai médité 1000 jours. J'ai médité plus de 1000 jours en fait d'affilée. Et ça m'a vraiment Changer la vie, ça m'a fait du bien. Donc c'est ancré, c'est comme me brosser les dents, c'est comme me laver. Je peux plus passer à côté. Et
t'as réussi à faire 1000 jours non-stop sans interruption.
Et même des fois où j'avais fait une soirée la veille, je me réveille, j'ai un petit peu. Enfin, même en toutes circonstances, en gros. En toutes circonstances, le matin, je me réveille, peu importe où je suis, je m'assois et je médite.
Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à introduire dans ta vie, justement, toutes ces routines matinales? Parce que je suppose que c'est pas l'habitude de toutes les personnes d'avoir vraiment une routine qu'ils arrivent à tenir de manière bien fixe, avec en plus de ça, ces petites briques d'éléments-là. Enfin, moi, je te connais, mais voilà, l'idée, ça serait que tu nous dises un peu qu'est-ce qui t'a amené à tout ça, parce que je sais que tu travailles justement sur le bien-être aussi et sur toutes ces dimensions.
Yes. À la base, c'est un mal-être, en fait. Enfin, c'est un mal-être, c'est des choses qui n'étaient pas légères en moi. C'était un ancien Jordan qui se réveillait le matin avec des pensées négatives et qui, le premier réflexe, c'était fumer une cigarette et prendre un café. Et du coup, ça baissait vraiment mon énergie et ça ne me permettait pas de me sentir bien. J'étais pas bien quand je faisais tout ça. Et en suivant des personnes, en écoutant des conseils, en lisant des choses, en m'intéressant, j'ai vraiment compris qu'en prenant des habitudes, bonnes habitudes, par exemple méditer tous les jours, à long terme, ça pouvait vraiment faire une différence. Et ce qui était important, c'était pas de méditer une heure par semaine, ou en gros, l'idée c'était de le faire tous les jours. C'est vraiment l'effet cumulé. Donc, même faire un petit peu, par exemple 5 minutes ou 10 minutes, mais tous les jours, répéter.
Et donc, du coup, tu as commencé à introduire ça un peu dans ta vie, en même temps, tu continues à fumer ta cigarette.
C'est ça, exact. Et ce qui était chaud, en fait, ça, j'adore donner cet exemple parce que il y a eu vraiment une période quand j'ai commencé à méditer et que je fumais encore, parce que là je fume plus, je me réveillais, je faisais ma méditation et là du coup je faisais aussi la gratitude, donc je ressentais vraiment du bien-être, je me sentais vraiment bien et en gros ma vibration était haute quoi, mon énergie était haute. Et juste après, je fumais ma clope avec mon café et là bam. Et c'est comme si tu passais en fait d'un moment où tu es avec tes amis sur la plage, tu danses, t'es bien, à l'ambiance du métro parisien.
Ok.
Mais en 5 minutes. C'est vraiment ça, c'est ce qui se passait chez moi. C'est un changement d'état, en même temps que t'es trop bien, à un état boum. Et du coup, c'est ce qui m'a permis, en fait, peu à peu, de me séparer de l'habitude de fumer. Parce que l'habitude de la méditation me faisait tellement du bien que naturellement, je sais pas, je suis orienté vers ce qui me faisait du bien.
Je trouve ça intéressant parce que du coup, tu t'es retrouvé à associer deux choses qui étaient potentiellement antagonistes, quoi. Genre, la méditation, c'est censé être là pour vraiment te poser sur toi et t'apaiser le mental et tout ça. Et puis juste derrière, paf, café club, qui sont du coup vraiment l'opposé.
Juste après, en fait, ça.
Et le fait et le fait de se faire ce gros paradoxe, ça te permettait vraiment de sentir l'écart de bien-être à l'intérieur de toi et de comment tu te sentais vraiment en profondeur, quoi.
C'était beaucoup plus puissant que des séances d'hypnose, que j'avais essayé des séances d'hypnose, tout ça, et en fait, ça, c'était beaucoup plus puissant de faire les deux à la suite.
C'est intéressant, je trouve. J'avais jamais réfléchi comme ça, mais le fait de se dire, peut-être à des personnes qui veulent modifier des choses dans leurs habitudes, le fait de se dire, surtout, vous gardez votre habitude actuelle et vous injectez juste des choses qui sont complètement à l'opposé de ce que vous faites, puis vous voyez ce qui se passe. Et du coup, oui, en effet, je pense que tu dois vraiment voir le contraste, quoi.
Parce que, et puis naturellement, tu as envie d'aller vers du mieux, t'aimes ce qui te fait du bien, quoi. Donc, c'est plus facile de cette façon-là plutôt que de se dire, allez, j'arrête la cigarette, mais rien à voir. Enfin, rien à voir. Il faut trouver quelque chose pour le remplacer, en fait. Cette mauvaise habitude et.
Et donc, du coup, t'as réussi à introduire cette routine que maintenant tu tiens tout le temps et puis 1000 jours non-stop de méditation.
Ouais, j'ai suivi un programme sur 14 jours. Okay. On a un youtubeur qui s'appelle Autodisciple. Peut-être que des personnes qui suivent Nouvelle Porte le connaissent. C'est Raj. Et il a sorti un programme de 14 jours de méditation semi-guidée. Et je l'ai suivi. Et c'était la première fois de ma vie que je méditais 14 jours d'affilée. Et c'est vraiment là que j'ai pu me rendre compte des bienfaits, en fait, du fait de le faire tous les jours. En étant accompagné, en fait. Et à la fin des 14 jours, j'ai fait waouh, ça m'a tellement fait du bien, allez, je continue. Et aussi, quelque chose qui m'a drivé aussi, parce que tu m'en avais pourquoi tu tiens ces routines, c'est parce que je voulais, c'est pour un besoin de congruence aussi, d'alignement avec ce que je voulais transmettre. J'ai commencé en fait à méditer en 2016, et c'était le moment où sur Lyon, j'ai commencé à donner mes premières séances de méditation en musique. Et Et c'était une période où quand même j'étais pas mal stressé, j'avais un intérieur qui était un peu dark quand même. Et je me suis dit, ouais, c'est pas hyper aligné parce que si je reçois des personnes pour les aider à se déstresser, mais que moi je suis comme ça, je tremble, ça le fait pas. Du coup, je me suis dit, ok, pour être bien aligné, bah en fait, voilà, je me mets cette exigence de méditer tous les jours. C'est obligé. Donc ça m'a drivé.
Ouais, ça rentre dans le cadre des ingrédients qu'il y a besoin pour que ta recette que tu proposes aux autres elle soit cohérente, quoi.
Ouais, voilà, sinon c'est pas
Et
cohérent.
donc, du coup, ça te permet de rebondir sur qu'est-ce que tu apportes aux autres. Donc,
Ok,
tu parlais
bah
de méditation en musique, c'est comme ça que tu as
yes,
commencé à.
sur Lyon,
Ouais.
ouais, c'est ça. C'est en 2016 où, enfin, je sais pas si j'explique vraiment le pourquoi du ce qui m'a donné l'impulsion de faire ça, de vouloir apporter en fait du bien-être. Du coup, j'ai pas dit, mais enfin, moi je me considère, si on me demande tu fais quoi dans la vie, je dis, bah, je suis créateur de bien-être.
Créateur bien-être, ok.
Voilà, c'est un peu mon job que j'ai créé. J'ai à cœur d'aider les gens à créer leur bien-être, à créer de l'harmonie. Et tu vas pas poser la question, mais je pense que c'est important pour
Ouais,
que
vas-y,
tu.
justement, c'était
Voilà,
toi qui.
ok. Bah, en fait, c'était fin de. Il y a eu vraiment en fait deux éléments déclencheurs fin 2015 qui ont fait que. Après, j'ai totalement changé de direction et j'ai voulu m'investir à fond en fait pour les autres. C'était en 2015, il y a eu comme tu sais, les attentats du Bataclan, le
Ouais.
13 novembre, et c'est une salle dans laquelle j'aurais pu jouer. En fait, j'ai participé à un tremplin il y a quelques années avec un ami, et on aurait pu y jouer. Et du coup, ça m'a vraiment touché en fait, cet attentat. Et je me suis dit, ok, j'aurais pu y être, j'aurais pu laisser ma peau, j'aurais vraiment pu mourir. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment dit, comme si j'étais vraiment face à la mort, ok. Maintenant, la vie peut s'arrêter à tout moment, donc qu'est-ce que j'ai envie de laisser au cas où je parte? Qu'est-ce que je peux faire?
D'accord.
Et c'est vraiment ça qui m'a drivé. Avant, j'étais à fond dans la musique et je voulais voilà, faire des tournées, être compositeur de musique de film. Je m'étais formé pour ça et tout, et je voulais vraiment percer la musique dans l'idée. Et c'était quand même un peu un besoin un peu égoïste. Et j'ai l'impression vraiment que cet événement m'a ouvert à plus grand que moi en fait et m'a permis de sortir un petit peu de petits besoins égoïstes de carrière et de me dire ok peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose d'inspirant qui puisse aider les gens et comme ça si tu pars enfin quelque part je sais pas je me suis dit je serais en paix quoi j'aurais
Ouais.
fait ce qu'il faut et du coup c'est ce qui m'a donné envie d'associer mes compétences pour la musique et toutes mes connaissances en méditation en développement personnel. Parce que peu de temps après l'attentat du Bataclan, je suis allé donner un concert avec un ami guitariste et une amie chanteuse dans un hôpital psychiatrique.
OK.
Et on a fait un petit concert. Et on joue et tout. Et à la fin, en fait, ce qui était magique, c'est qu'on reconnaissait, on savait plus qui étaient les patients et qui étaient les encadrants. Enfin, pour te dire que c'était comme si on avait vraiment permis de créer un moment où. Les patients étaient vraiment dans le bien-être, tout le monde était dans le bien-être. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment compris qu'avec la musique, on peut vraiment aider des personnes qui souffrent, qui sont pas très bien, qui sont stressées, à aller mieux. Et ça a été vraiment un gros déclic, comme, je sais pas, on peut appeler ça un saut quantique, truc où tu changes de vision du monde, tu fais, ah mais ouais, ok, Eureka. Et donc, ces deux événements qui étaient à peu près en même temps, qui ont fait que je me suis dit, ok, je vais. Utiliser la musique, mes compétences en musique, mes compétences en tant que musicien, pour aider les personnes à être moins stressées, à être plus dans le bien-être. Et du coup, après, en 2016, j'ai lancé mon premier événement sur Lyon, septembre 2016,
Ok.
à la suite de ça.
Et du coup, maintenant, tu as continué justement à développer toute cette un peu cette thérapie musicale, cet accompagnement musical. Tu as
Ouais,
greffé des autres choses dessus
voilà,
par rapport à ça?
c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à la base c'était juste un gars derrière son clavier qui improvise de la musique et qui accompagne un peu avec sa voix en prenant des textes dans les livres, hein, j'écrivais même pas les livres, et en fait en avançant sur ce chemin, finalement j'ai créé, j'ai appelé ça le voyage méditatif, qui est un peu un. J'ai pris le concept de la méditation, de la visualisation, de la relaxation, de la musique, j'ai mélangé pour créer en fait un concept qui est le voyage méditatif. Je me suis un peu approprié un concept pour aider les personnes. En fait, l'idée c'était de. La méditation m'a tellement fait du bien, je me suis dit, ok, il faut que je retransmette Et il faut que je trouve une façon, un petit peu un angle, un petit peu original pour que ça donne envie à des personnes qui peut-être n'ont pas envie de s'intéresser à la méditation en passant par le bouddhisme ou le zen. Et je me suis dit que la musique, c'est vraiment une bonne façon, la musique c'est universel. Donc l'idée c'était vraiment ça, c'était de permettre à des personnes, faciliter l'accès à la méditation par un format un petit peu original, donc le voyage méditatif, qui est un petit accompagnement à la voix, des suggestions, les sons de la nature qui viennent accompagner les suggestions et des longs temps de musique.
Okay.
Donc c'est pas une méditation guidée, c'est entre en fait.
Et ça dure combien de temps à peu près?
En live sur Lyon, c'est des séances de 1 heure.
Okay.
1 heure et sinon sur YouTube, il y en a des petits voyages de 12 minutes, 10-12 minutes.
Et comment c'est reçu du coup? Est-ce que tu as des personnes qui ont participé à tes voyages, qui ont derrière, comment dire, qui sont rentrées dans une démarche plus quotidienne justement de méditation, ou qui sont revenues vers toi pour d'autres types d'accompagnement?
Yes, bah, déjà en live, à la fin des séances, c'est déjà arrivé que des personnes me disent waouh, je me sens beaucoup plus léger, j'ai pu libérer des choses par la visualisation. Ce que j'adore, c'est quand ils me disent, en fait, tu m'as dit de voir ça, et en fait, j'ai vu un truc complètement différent, et ça m'a permis de débloquer ça, un autre truc. Et ça, j'adore parce que j'ai vraiment envie de proposer un cadre, et qu'après, la personne, elle s'en serve pour s'apporter ce dont elle a besoin. Et c'est souvent arrivé que des personnes me disent, oh, bah, parfait, merci, ça m'a permis de débloquer des choses, de comprendre, d'avoir un déclic. Et pas mal de personnes à qui ça a donné envie de pratiquer la méditation. Des personnes que du coup j'ai renvoyé sur un programme, j'ai créé un programme qui s'appelle Prendre l'habitude de méditer en 28 jours. Et c'est en fait un mail par jour avec des petites méditations semi-guidées pour aider les personnes à vraiment prendre l'habitude de méditer, être autonome quoi, pas être dépendant d'une voix de l'extérieur.
Ouais,
ça c'est vraiment. Et du coup, pas mal. Et sous tes recommandations, j'avais rejoint Insight Timer. D'ailleurs, merci parce que, pour ceux qui ne connaissent pas Insight Timer, c'est une plateforme qui réunit du coup toutes les personnes qui vont créer des méditations, spéciales méditations ou des musiques méditatives. Et c'est vraiment une communauté autour de la méditation. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont suivi des voyages méditatifs. Tous les jours, je vois les stats, il y a tous les jours des personnes qui écoutent, alors qu'il y en a 10 des voyages. Et on m'a dit que c'était l'une des meilleures méditations qu'ils pouvaient écouter. En fait, ils aiment le fait que ça ne soit pas tout le temps guidé, en fait. Je pense que c'est vraiment ça que.
Ton format, je trouve intéressant parce que ça me rappelle beaucoup. J'ai fait 2 jours de découverte de ce que c'était que les voyages chamaniques.
Okay.
Et donc, du coup, tu sais, c'est en gros, tu as le chaman qui commence à jouer au tambour pour arriver à faire en sorte déjà de. Quand tu as le tambour avec les vibrations, déjà ça te coupe un peu toutes les réflexions que tu peux avoir. Et ensuite, quand tu es dans cet état un petit peu flottant, c'est à ce moment-là où il te demande de t'allonger et après il va continuer à jouer du tambour. Et lui, il va juste introduire en fait la phase de départ qui te dit il peut te mettre dans une situation, un environnement type un champ ou quoi que ce soit. Puis à un moment donné, tu montes dans un arbre et puis quand tu arrives dans l'arbre, tu as une porte, tu rentres par la porte. Et après, quand tu as passé la porte, là tu es quelque part qui est l'espace qui te vient. Et tu es avec un allié, lui il appelle ça, ou des fois on peut appeler ça par plein d'autres noms différents. Et cet allié, c'est toi qui le crée aussi et qui imagine comment il peut être et les caractéristiques qu'il a. Mais du coup, c'est un peu un support à un ami imaginaire au final. Et ce qui était intéressant avec cette personne avec laquelle j'avais exploré ça, c'est que lui, il était psychanalyste à l'origine. Donc du coup, en gros, il avait un gros travail qu'il avait fait très rationnel, qui était sur un travail sur l'inconscient, sur le subconscient, le travail avec les rêves, mais le côté très psychanalyste. Et du coup, il utilisait des termes qui étaient très, très, très rationnels. Quoi. Et ce que je trouvais intéressant, c'était ça, c'est un peu ce que tu disais juste avant, c'est en fait, tu donnes la possibilité à des gens de se retrouver dans leur imaginaire. Et en même temps, tu ne fais que leur suggérer des choses, mais leur imaginaire fait émerger d'autres trucs. Et donc du coup, ils se retrouvent à être surpris, à dire, et à un moment donné, il y a eu mon frère qui s'est pointé. C'est ce qui était arrivé dans un des voyages pour une autre personne. C'était, il y a mon frère qui s'est pointé et puis il a commencé à vouloir me dire un truc. Et puis je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il foutait là? Parce qu'il n'avait aucune raison d'être là. Parce que la personne, je crois, elle était dans un espèce d'univers en train de voler ou un truc un peu, un petit rêve. Et là, elle s'est retrouvée à être face à son frère et du coup, elle s'est posé des questions derrière. Et après, quand elle est sortie du voyage, là, elle a pu se proposer en disant, OK, je note.
qu'est-ce qu'il foutait là. Et elle a pu se rendre compte qu'il y avait quelque chose qui était lié à son frère, qu'elle avait mis de côté et que ça voulait le coup de le faire remonter à la surface. Donc il y a une puissance aussi de communication avec l'inconscient qui a l'air assez intéressante, quoi.
Toi, ça t'a permis de comprendre des choses ou d'avoir des déclics de
Moi, ça m'a beaucoup intéressé dans le sens où la communication avec l'inconscient, en fait. C'est de se dire que le rêve ou l'imaginaire, c'est des choses qui justement permettent d'être surpris par des éléments de toi, mais que tu contrôles pas, qui sont juste émergents, et du coup tu les captes au moment où ils arrivent, et tu peux en faire quelque chose, tu peux essayer de communiquer avec. Et je trouve que l'intérêt est vraiment là-dessus, quoi. C'est une manière de communiquer avec une partie de soi avec laquelle on peut pas discuter en direct. Et du coup, je trouve ça ultra, ultra intéressant, quoi. Mais toi, je sais que tu t'intéresses un petit peu à cette partie-là aussi, le lien avec l'inconscient.
Ouais, le lien avec le subconscient particulièrement, ouais.
Ok.
Bah, du coup, je rebondis un peu là-dessus.
Ouais, vas-y.
En fait, si aujourd'hui, du coup, je peux vivre très bien mon activité et faire pas mal de choses, faire des séances en live, bosser sur le web, faire du coaching, accompagner des personnes, faire des conférences, et puis créer des albums en parallèle, enfin vraiment faire une arborescence de beaucoup de choses. Je suis vraiment convaincu que c'est parce que à 17 ans, là j'en ai 24, mais à 17 ans, j'ai fait un gros travail sur mon subconscient, en fait. Enfin un gros travail. J'ai marqué mon subconscient. À cette époque, du coup, pour contextualiser, j'étais vraiment l'ado qui est très révolté face à la société, qui a un cœur ouvert, qui est très sensible, qui du coup n'est pas trop intégré dans un monde qu'il trouve violent, qui du coup fume beaucoup, enfin je fumais beaucoup de joints, de cigarettes, j'avais tendance un peu à m'auto-saboter. Mais à côté de ça, grâce à internet, je pouvais m'ouvrir un peu à la spiritualité, le développement personnel, des choses qui, je me dis, ça m'attirait en fait. Et un jour, je suis tombé sur un article qui est d'écrire une lettre à son subconscient. Et le gars m'expliquait, moi je ne connaissais pas du tout, mais il me disait que si j'écrivais noir sur blanc, en fait, vraiment des intentions, des affirmations, des choses que j'ai envie de réaliser dans ma vie, et que j'y croyais en le faisant, ça allait le faire, ça allait se manifester. Il fallait écrire cette lettre et ne plus y penser, et ça allait envoyer un signal fort à ton subconscient, en fait.
Okay.
Et du coup, à 17 ans, moi, je l'avais vraiment pris au sérieux. Surtout que c'est pas vrai, c'était... je l'ai vraiment pris au sérieux, j'ai écrit cette lettre, et je l'ai mis dans une boîte, et en fait, je suis parti avec mon scooter, une pelle, et en fait, je suis allé creuser la lettre, c'est un peu bizarre, mais dans une colline, en fait.
Okay.
Dans mon village, il y a une colline qui est très apparente, et en fait, quand tu arrives dans le village, tu la vois. Je me suis dit, si je dépose cette lettre dans cet endroit, à chaque fois que je vais passer devant la colline, et ben inconsciemment, enfin en le regardant, ça va venir amplifier mes intentions. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé par-dessus là. C'est une propriété privée. Du coup, je me suis faufilé comme ça. J'ai creusé un petit trou sous un arbre. Et ça peut paraître bizarre, mais faut savoir que je l'ai vraiment fait dans un état introspective, de foi ultime. C'était limite une sorte de prière, en fait, pour moi. Pas une prière liée à une religion ou quoi, mais vraiment une vraie foi que j'avais.
Ouais, tu le croyais vraiment, ouais. Tu étais complètement dans l'histoire, que t'étais
Comme si je m'écrivais, voilà, ça, c'est une histoire. Et du coup, je l'ai fait, et j'avais mis dans cette lettre un gros panneau, attention. Tu n'arriveras pas à... Alors, dans cette lettre, il faut savoir que j'avais mis, j'ai envie en fait de changer le monde. J'ai envie d'être inspirant et de faire des choses positives pour changer les choses, vivre de la musique et apporter. Alors qu'à l'époque, c'était juste impossible, en fait. Je payais et tout, c'était vraiment chaud intérieurement. Et j'avais mis un panneau, attention, tu n'arriveras pas à réaliser tout ce que tu as envie si tu continues à fumer des gens. Je m'étais mis un panneau, attention.
Ouais.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'après cet événement, à chaque fois que je me retrouve en soirée où je fumais des joints avec des amis, je ne vivais pas comme eux. Et ça me mettait vraiment dans un bad trip. Alors des fois c'était rigolo, mais des fois, la plupart du temps, j'étais pas bien intérieurement. Ça me faisait ressasser des choses pas cool. Et je pense vraiment que c'est mon subconscient qui m'envoyait qui me disait attention, en fait, c'est pas aligné avec ce que tu veux vraiment, donc arrête. Et ça m'a permis petit à petit d'arrêter.
D'accord.
De me détacher. Alors à la suite de ça, il y a eu. les bonnes informations au bon moment. C'est vraiment ça que je peux apporter aussi, peut-être à des personnes qui peuvent s'intéresser, si des personnes s'intéressent sur les pouvoirs du subconscient, c'est que si vous faites un travail dessus, si tu fais un travail sur ton subconscient, tu vas, en fait, il faut savoir que le subconscient, c'est l'intelligence ultime, c'est ce qui permet que notre cœur batte sans qu'on ait besoin d'y penser. C'est ce qui permet qu'on ait des fois on a des idées, enfin souvent on a tout le temps des idées qui viennent comme ça, alors qu'on n'a pas demandé à les avoir, c'est le subconscient qui nous les envoie. On parle chez nous et ah, si vous voulez les clés, c'est le subconscient qui t'envoie l'info. Donc en fait, quand tu reprogrammes ton subconscient, quand tu joues avec ton subconscient et que tu lui donnes vraiment des directions précises, il va t'envoyer les bonnes choses. Et j'ai l'impression, enfin, de ce que j'ai pu expérimenter, qu'en ayant marqué très fort le subconscient, il m'a mis sur la voie des bonnes informations au bon moment, les bons livres, les bonnes vidéos, les bonnes rencontres, les bonnes synchronicités, en lien avec l'intention profonde que j'avais émise. Et okay. du coup, j'ai 24 ans, je suis hyper content, hyper épanoui, je suis bien dans ma vie, et je peux même aider les autres du coup à être bien. Et maintenant, c'est pour ça que j'ai à cœur d'aider les personnes à jouer sur leur subconscient, avec leur subconscient, et dans une démarche créatrice, pas une démarche où on va creuser tout le temps vers ce qui va pas, mais plutôt, ok, il y a des blocages, il y a des croyances limitantes, mais au fond, qu'est-ce que tu veux, quel est cet idéal, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et enfin, c'est un peu chaotique tout ce que je dis,
non,
tout ça pour te dire que
c'est pour arriver là, maintenant tu aimerais bien arriver à aider les gens à faire émerger,
c'est ce que je fais en fait,
ils ont vraiment
déjà. Tu sais peut-être pas, mais du coup je crée des audios, je crée des j'en avais parlé il y a un petit moment. Et du coup, ça s'est bien développé. Je crée des audios pour aider les personnes en fait à reprogrammer leur subconscient. Et la démarche, c'est me connecter avec ces personnes pour faire un point sur ce qui bloque, leur blocage, les amener en hypnose pour les amener dans un état d'hyperconscience pour qu'ils me disent, en étant bien, quel est mon idéal, quelle est la plus haute vision en fonction des domaines de vie. Et moi, je vais être là et je vais prendre des notes en fait. Je vais récolter leurs informations vibrantes et je vais après réécrire un texte pour leur créer un audio hypnotique qu'ils puissent écouter tous les soirs.
Qui est en rapport justement avec leur aspiration profonde pour que ça puisse guider leur subconscient. Quoi.
Voilà.
C'est ça l'idée.
Et qui vont pouvoir en fait écouter en étant accompagnés, en état d'auto-hypnose. Alors, je sais pas si tu es à l'aise avec les ondes cérébrales.
Bah, on peut en parler.
Parlons-en.
Même si c'est pointu, après on explique.
Ok, ça, super. Moi,
ça il faut savoir. En direct.
Là, nos ondes, notre activité cérébrale, on est en mode bêta normalement. Du coup, on est en train de parler. Si là, on s'arrête et qu'on rentre en méditation, on va être dans un mode alpha. Donc, nos ondes cérébrales, elles vont faire un autre mouvement. Ça sera l'alpha. Et quand on rentre en hypnose et avant qu'on rentre dans un sommeil profond, on est en θ. Θ, c'est l'état hypnotique. Et il faut savoir que quand on est de 0 à 7 ans, on était en mode θ. On était sur cette... Imagine, ça c'est un truc de fou. Quand j'ai appris ça, je suis devenu fou. Imagine, quand de 0 à 7 ans, t'es sous hypnose en fait. C'est pour ça que des fois on trouve que les enfants ils sont un petit peu bizarres.
Ouais, ils sont un peu perchés.
Ils sont sous hypnose en fait. Ils voient pas les choses comme nous. Ils sont pas en bêta. Nous, on est en bêta parce qu'il faut qu'on gère plein de choses et tout. On peut pas être. Enfin bref, tout ça pour dire que tout ce que tu as absorbé, toutes les suggestions qu'on t'a faites de 0 à 7 ans, tout ça s'est imprégné sur ton subconscient. Ce qui fait qu'après 7 ans, tu as des automatismes, tu as des conditionnements qui peuvent t'enchaîner en fait. Qui n'aident pas forcément à développer ton potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont être, pour moi, il y a vraiment des personnes qui vont être très créatives et d'autres pas. Et en fait, moi, je pense vraiment qu'en fait, on est tous très créatifs. Mais je pense que les personnes qui se disent, ouais, moi, je suis créatif, c'est parce que quand elles étaient petites, on leur a donné confiance en la créativité. On leur a peut-être donné des stylos, enfin des feutres pour dessiner, ou on les a fait créer. Et du coup, ils ont eu cette croyance que ce sont des créatifs.
Donc en gros, ils ont été de 0 à 7 ans, vu qu'ils étaient en fréquence θ.
Oui, en hypnose, ils l'ont imprimé.
C'est tout qui s'imprime directement, donc ça les a programmés quelque part.
Et
ensuite, après le reste de leur vie, quand ils ont basculé en bêta, c'est un peu comme si tu déroulais ton programme, quoi.
Ouais,
dans l'idée.
et tu peux réaccéder à ces états, en fait, par exemple l'état θ, en hypnose, quand tu entres en hypnose. Et c'est pour ça, un moyen pour reprogrammer le subconscient, ce que je développe à fond en ce moment, c'est ça, c'est créer un audio qui permette de mettre la personne en état θ, en utilisant le biais de la musique et la voix, l'accompagnement, pour que du coup, elle puisse imprimer les informations que la personne aura elle-même choisies. C'est pour ça qu'il y a vraiment une démarche créatrice.
Sinon, quand on est en de tes recherches, hein, parce que ça, je trouve que c'est intéressant de voir les transitions, en fait. Là, on est en bêta. Qu'est-ce qui fait que du coup, on bascule de fréquence? Par exemple, tu disais quand on est en méditation, on bascule en alpha.
Yes.
Qu'est-ce qui fait que du coup, on va pouvoir basculer d'une fréquence à l'autre et qu'est-ce qui fait qu'on le sent et qu'on le sait au fond de nous?
La méditation aide vraiment à avoir un impact justement sur ces vibrations, sur ces... Ce que je veux dire, c'est qu'un méditant, une personne qui a médité pendant des années et des années, va réussir assez facilement à rentrer à créer des ondes θ, parce qu'il aura cultivé sa capacité d'attention. Mais là, c'est pas hyper pertinent par rapport à la question que tu m'as posée. Moi, je dirais que c'est là, si à partir de maintenant, on respire, ce que l'on fait extérieurement, consciemment, en gros, notre activité cérébrale va se synchroniser avec ce que l'on fait, avec ce que l'on fait consciemment. Et plus on va méditer, du coup, plus on va calmer nos pensées, plus ça va ralentir notre activité cérébrale, plus on va être en mode alpha. Je ne sais pas si ça répond vraiment.
Non, mais dans le sens où l'activité qui serait sur des fréquences bêta, oui, c'est une activité qui est dynamisée par l'énergie des pensées. Parce que les pensées, du coup, ça serait des énergies aussi qui circulent, quoi. Et que du coup, quand tu te focuses sur quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pensée, mais qui est de l'ordre du physionomique, la respiration, le corps, la danse, ou des choses comme ça, ou un paysage, ou peu importe, là, le cerveau change de fréquence parce qu'il s'aligne sur ces perceptions-là qui sont sur un autre niveau, quoi.
Exactement.
Un autre plan. Ok. Et yes. pour les tétras, du coup, c'est... Tétra, pardon. Tétra. Et ouais, pour les thétas, du coup, ça serait ton esprit serait focus sur quoi, du coup? Parce que pour les alphas, justement, je comprends, c'est le côté sensation, le côté physique, le côté respiratoire. Pour les thétas,
c'est difficile à atteindre tout seul. C'est pour ça que généralement, typiquement, on le fait en étant accompagné par un hypnothérapeute qui saura adopter le ton, où il va parler d'une façon très monotone et il va t'inviter à te focaliser sur le truc. Et tu vois, il t'amène. Et même, moi là, je sens qu'en le faisant, ça change déjà mon état.
Ouais, ça peut t'amener toi aussi, tu vois.
Et ça, c'est bien connu. L'hypnothérapeute va. Il vit aussi l'hypnose, ça le change aussi un peu. Mais oui, voilà, c'est en étant guidé, en fait, en rentrant vraiment en relaxation profonde. Voire plus. Par exemple, moi, quelque chose que j'utilise pour amener une personne en état θ, c'est pas beau comme mot, en état θ.
En état θ.
Mais en fait, je vais imagine que tu descends en escalier, et plus tu descends les marches, plus du coup tu rentres en profondeur, plus tu rentres en hypnose. Ça, c'est une suggestion. Ouais, pour rentrer en état θ, c'est. Faut avoir des suggestions en fait extérieures. Les accepter et se laisser aller, en fait. C'est pour ça qu'une personne qui fait pas confiance, qui est pas à l'aise avec son hypnothérapeute, qui se laisse pas...
Ouais, il y a ses pensées qui vont
elle va difficilement...
ses croyances qui vont bloquer, et du coup, il pourra pas arriver à descendre encore plus... parce que du coup, c'est des fréquences qui sont plus basses.
Plus basses,
c'est de plus
exactement.
En plus bas, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ok. Non, mais ça me fait émerger une pensée qui était... justement, il y a un côté que j'aime bien sur ces podcasts, c'est que... dans la discussion, qui est du coup sur une fréquence bêta, j'ai l'impression qu'arrive un moment, en fait, quand tu es vraiment dans une discussion où tu es engagé, où tu es vraiment dans l'écoute, quand la discussion s'arrête à la fin, ton état de conscience, à mon avis, du coup, tes fréquences sont un peu différentes aussi. Donc, je me posais toujours la question si par la discussion, ça pouvait pas amener les deux personnes qui discutent à changer aussi un peu leur fréquence et leur perception.
Je pense que quelque part, on atteint un état de flow. Et je me demande d'ailleurs si l'état de flow, ça je ne sais pas, enfin le confirmer, si l'état de flow il n'est pas associé à l'état alpha en fait. Si finalement l'état
Ouais, ça sera à vérifier, ouais, je sais
à
plus. En tout cas, je
vérifier,
sais que c'est sur
mais
une fréquence qui est
ouais.
proche de celle de l'autohypnose,
Voilà.
puisque c'est une forme d'autohypnose, le flow. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le flow, ça serait quand on est complètement focus en train de faire une activité qui pourrait être une activité soit répétitive, soit une activité, je sais pas. Si vous êtes sur votre ordinateur en train de travailler à écrire un texte, par exemple, et puis qu'une heure plus tard, vous vous dites, tiens, ça y est, j'ai fini et j'ai déroulé pendant 1 heure et je ne me rends pas compte de ce qui s'est passé, j'étais complètement focus et à fond dedans, et bien là,
Ça
c'était un
c'est
état de
chaud.
flow. Et c'est en général des états qui, en plus de ça, sont plutôt agréables. Pendant, même si on ne s'en rappelle pas trop comment on était pendant, mais après, en tout cas, on en
Je
garde une
suis
impression
addict à ça.
qui est agréable. T'es addict à
C'est
ça.
ah ouais, c'est état de flow. C'est pour ça que je travaille tout seul en fait. Je suis plutôt un introverti qui travaille. Bon, même si je fais des séances et je m'ouvre, voilà, je rencontre du monde. Mais pour travailler, j'adore en fait me mettre en immersion. Je sais pas comment tu travailles, mais moi j'adore me faire des sprints en fait. Enfin, des
Okay.
sprints. Ouais, avoir un challenge en fait. Quelque chose qui me demande de mobiliser vraiment mes ressources parce que c'est. Oui, je fais une petite précision en fait. Pour atteindre l'état de flow, faut que notre activité soit assez challengeante, mais pas trop non plus.
Ok.
Parce que je veux dire, si c'est trop facile, si c'est par exemple écrire un article sur un sujet qui. Enfin, je sais pas, c'est vraiment trop facile, trop simple, tu vois, on a trop l'habitude de le faire, bah, on va pas atteindre vraiment la sensation de flow.
Ouais, c'est un peu comme si on connectait sur un truc à l'intérieur, quoi. Donc il y a besoin
Ouais.
d'avoir un engagement aussi
Oui. Et
émotionnel, un
d'ailleurs, c'est pour
intérêt.
rebondir à ce que tu disais, je pense que quand tu fais ces podcasts, les deux personnes rentrent en état de flow, et moi je le sens, ça me fait rentrer en état de flow parce que pour moi c'est challengeant en fait quand même, parce qu'il faut tenir le fil, il faut avoir une pensée quand même qui est assez cohérente, et ça me demande de vraiment me concentrer, et c'est plaisant en fait, parce que y a un petit côté challenge, un petit côté un peu dépassement qui fait que tu dois vraiment mobiliser toute ton attention. Ressources pour.
Et je voulais trop bien rebondir sur l'attention, parce que tu vois, je pense qu'il y a aussi un lien avec ça assez paradoxal, c'est le côté, tu me diras ce que tu en penses justement sur les gens que tu peux recevoir et que tu peux accompagner justement pour qu'ils arrivent à retrouver ces états un petit peu différents de l'état bêta du quotidien. Mais l'attention, en fait, pour les podcasts, j'avais déjà cette remarque aussi, c'était, ben oui, voilà, ben du coup, on n'est pas en train de parler juste tous les deux, et donc je peux pas vraiment décrocher ou raconter un truc qui a rien à voir, ou donc du coup, ça demande un minimum d'effort, et donc du coup, j'ai besoin d'être là pendant 1 heure, 1 heure 30 avec toi, et on n'est vraiment que là, alors que quand je suis dans des discussions avec d'autres personnes en soirée ou quoi que ce soit, bah en fait, très rapidement, je peux décrocher, je peux m'éloigner, je peux sortir mon téléphone pour répondre à un truc et du coup, bah, ça me fait décrocher. Et en fait, l'état du quotidien est un état un peu, bah, ça on le sait déjà, mais un état de sursollicitation en fait par plein de stimuli extérieurs. Et donc en fait, on est continuellement en train d'accrocher, décrocher, d'accrocher, décrocher sur ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on peut quasiment pas rentrer dans un état de flow. Et on est toujours dans des
Oui,
états un peu de
voilà.
navigation et de décrochage et de raccrochage. Et en plus de ça, c'est fatigant. Et dans notre société actuelle, qui a un gros déficit justement de l'attention, est-ce qu'on passe pas à côté d'un des trucs ultra, ultra agréables, ultra importants, qui est justement cette notion de flow, quoi. Et en plus, qu'on
Si, mais
l'utilise de manière tellement orientée
carrément.
performance, quoi. Tu vois, genre, faut être en flow pour pouvoir être performant sur ce qu'on est en train de faire. Mais
Mais
en fait, on peut être en flow quand on fait la vaisselle ou quand tout le temps, quoi.
oui. Ouais, je sais pas trop comment rebondir dessus, mais. Enfin, je pense qu'on peut prendre l'exemple. Moi, je sais pas, ça me fait penser vraiment aux enfants, en fait. Quand on regarde les enfants, je pense que c'est vraiment un exemple de. Ils sont vraiment à fond dans ce qu'ils font, dans l'action.
Ouais.
Après, ça dépend, mais.
Est-ce que tu sens, toi, que les personnes que tu accompagnes, elles ont justement un peu ce déficit ou cette
Ce
difficulté à
problème.
à tenir l'attention ou à être focus sur quelque chose en particulier, et que ça peut être ça qui fait qu'ils soient pas bien? Qu'ils aient un
Ouais.
déficit du flow, justement, tu
Ah
vois?
oui. Bah ouais, c'est vraiment une des raisons qui donne envie de vraiment méditer parce que comment dire, leur attention, je t'avoue que là j'ai un petit peu, du coup j'ai... Du coup, j'ai un peu perdu le fil, ça m'a...
T'as perdu le flow.
Ah, j'ai perdu le flow.
Je t'ai fait décrocher.
Ouais, je sais ce qui s'est passé.
Avec mes questions un peu chiantes. non, mais c'est juste, ça, mais... concrètement, juste savoir un peu les gens que t'accompagnes. Est-ce que tu sens qu'ils sont, ils sont, je sais pas, hyper actifs et du coup ils sont tout le temps en train de faire plein de trucs et c'est ça qui fait qu'ils n'arrivent pas à vraiment se poser pour méditer, ou est-ce qu'ils ont juste pas les outils, ou
c'est plus une énergie créatrice souvent qui est bloquée.
D'accord.
Et mais du coup ça rejoint carrément ce que tu dis en fait. Le fait de méditer et de se recentrer par exemple tous les soirs sur en écoutant cet audio. Et se recentrer sur sa plus haute vision et donc agir sur son subconscient, c'est vraiment de dire voilà, c'est ça mes priorités, c'est ça qui me fait vraiment vibrer, c'est ça qui donne du sens. Et c'est ce qui fait qu'au quotidien, tu vas avoir le choix entre écrire ou passer une heure et demie à regarder des vidéos, et ben ça va être plus facile d'aller vers l'écriture, d'aller vers la créativité, plutôt que d'aller vers la facilité, de se laisser aller. Parce que tu as envoyé ce signal fort en fait, ce signal fort que non, j'ai envie de créer, c'est ça qui...
Donc pour toi, la méditation, ça permet d'avoir cette espèce de temps où tu peux détecter un peu les trucs qui sont vraiment importants pour toi. Et ensuite, en...
Ça, c'est plus qu'hypnose du coup.
Ouais, voilà.
Ça, c'est plus relié au travail sur le subconscient. Mais en tout cas, la méditation, et ça va vraiment rejoindre ce dont tu parles au niveau de l'attention, c'est que ça permet vraiment d'avoir des temps dans sa journée où tu te rends compte à quel point ton esprit part dans tous les sens. Et je pense que c'est vraiment important de s'en rendre compte. En fait, c'est difficile de penser à rien, en fait.
Ouais.
Et pourtant, c'est dans cet état que quand tu es dans une sorte de conscience pure, quand tu n'as pas des pensées parasites, c'est dans cet état que tu peux avoir des super idées, que tu peux être très créatif, vraiment ressentir des bonnes émotions. Et la méditation est un entraînement de l'esprit qui justement vise à, dès que des pensées arrivent, on calme l'activité. Et pour qu'au quotidien, justement, on retrouve ces activités, cet état de présence le plus souvent. Donc par exemple, quand on est en train de discuter, quand quelqu'un nous raconte quelque chose, être vraiment attentif à ce qu'il dit, pas avoir des pensées...
Pas être happé par les autres pensées pendant que tu es vraiment là avec quelqu'un, quoi.
Et c'est pour ça qu'après, chaque personne est différente, mais moi franchement, je ne sais même pas comment serait ma vie si je n'avais pas fait la méditation, parce que j'ai tendance à avoir des pensées qui partent dans tous les sens et à pas être concentré. Et du coup, si une personne va me dire quelque chose, à pas vraiment... avant, c'était ça, à pas vraiment la comprendre. Alors que là, maintenant...
Tu arrives à rester là.
Ouais, je suis là et du coup, je pense pas... Enfin, j'écoute vraiment la personne et ça me permet aussi... dans un côté professionnel, ça m'aide à vraiment servir la personne au maximum parce que je pense pas à moi, je vais vraiment écouter la personne, je vais vraiment pouvoir répondre en fonction pertinemment avec ce que la personne a besoin. Enfin, l'écoute, et je pense que c'est vraiment une capacité, quelque chose qu'il faut développer, pas juste pour côté professionnel, mais pour côté humain en fait. Pour côté humain que. Et. C'est ça, moi je retiens des mille jours de méditation et c'est pour ça que j'ai envie d'aider les gens à méditer. C'est parce que je trouve que ça nous permet d'être des meilleurs, enfin, des êtres humains, si le mot meilleur. Enfin, ça nous permet d'être justement plus humains en fait, à plus développer sa capacité d'écoute, ressentir, capter des choses qui dans l'invisible, des choses entre les mots.
Ça serait quoi du coup pour toi être humain vraiment, quoi. C'est ça, ça serait sur des dimensions qui sont justement au-delà du mot, qui sont dans le détail de l'attention qu'on peut porter à quelqu'un. Comment est-ce que tu le définirais, toi, ce côté parce que je rebondis là-dessus, parce que tu me parlais de toi à 17 ans quand tu étais en mode un petit peu en opposition par rapport à la société, parce que trop violente ou trop froide par rapport à toi, ce que tu pouvais ressentir, ou peut-être... Parce que tu étais peut-être très ouvert en réception de tout ça, quoi. Et là, maintenant, après les années qui sont passées, justement, pour toi, et vu que tu participes justement à essayer de créer un autre type d'humanité, quoi, notre type d'humain, ça serait quoi pour toi, justement, des vrais humains, quoi?
Yes. C'est des personnes qui vont habituellement se recentrer, en fait. Qui ne vont pas avoir peur de fermer les yeux et d'écouter le silence, en fait. Vraiment de se recentrer, d'anticiper leur monde intérieur. Pour vraiment apprendre à se recentrer, à se ressentir et en fait capter des idées, capter des sortes d'appels, c'est quoi, des appels du cœur, des ce qui est vraiment vibrant en fait. Enfin, pour moi, ce serait de une humanité idéale, c'est une humanité qui vraiment prend des temps à peut-être se balader dans la nature seule. Ou même pas forcément dans la nature, mais qui prend le temps de s'arrêter et calmer le flot d'activité pour être en mesure de capter des bonnes informations qui vont leur permettre en fait d'agir en adéquation, d'agir en harmonie à l'extérieur. Donc c'est pas une humanité qui va juste méditer, rester dans la passivité en mode bisounours, tout est beau, tout va. C'est même au contraire, c'est plus de conscience en fait. Être en harmonie, mettre en harmonie ce que l'on a à l'intérieur, les appels, notre voix intérieure avec l'extérieur, même si à l'extérieur tout nous montre que en fait non, faut pas le faire ou c'est pas normal de le faire, enfin c'est pas normal, ça va être mal vu quoi. Vraiment une humanité qui va écouter cette voix intérieure, cette voix que l'on a tous en fait. Et qui nous pousse peut-être à faire des choses qui des fois peuvent déranger, qui sont en dehors des codes et tout. Et le faire en se disant ok, mais je le fais parce que je sais qu'au fond c'est juste. Et je le fais pas parce que c'est un dogme, mais parce que j'ai ces croyances qui viennent de l'extérieur qui me disent que ça c'est bien. Donc c'est vraiment quelque part être à la fois en fait son maître et son disciple dans l'idée. C'est être connecté à cette partie-là. Et être, ça c'est vraiment un truc que j'aime parler, c'est la créativité centrale, être connecté à sa créativité centrale. Pour moi, la créativité centrale, bon, par exemple, Jésus était connecté à sa créativité centrale, Jimi Hendrix était connecté à Gandhi. Mais tu vois, un Gandhi ne pourrait pas être un Jimi Hendrix, et un Jimi Hendrix ne peut pas être un Bob Marley, et c'est ça qui est magnifique en fait, c'est ça que je trouve magnifique dans l'humanité. Et moi, une humanité idéale, c'est une humanité où chacun en fait s'est connecté à cette créativité centrale, ce qui fait qu'il a quelque chose de totalement unique à offrir, à donner, et qu'il met vraiment en joie. Que chacun s'autorise vraiment à être l'univers qu'il est, parce qu'on est tous des univers. Je pense vraiment qu'on a l'image de l'univers, on est tous des mondes. Et une humanité qui est plus de tolérance, que l'on accepte que l'autre soit vraiment. Et que ça crée de la richesse, tu vois, tout ça. Qu'on puisse se retrouver avec des. Je dis ça parce que ce week-end j'étais dans une maison à Fontainebleau, c'était une résidence créative avec des créateurs. Enfin, il y avait mélangé dans la même bac un gars qui fait des paris sportifs, qui est une chaîne YouTube et une communauté autour des paris sportifs, paris sur foot, à côté d'un gars qui écrivait un livre qui relie le dev perso et le job, à côté d'un autre qui écrivait un stand-up et un autre qui codait un jeu vidéo et un autre qui nettoyait un code et enfin bref, tu vois, vraiment des personnalités vraiment différentes enfin, parce qu'au fond, on était vraiment quand même différents, vraiment dans des délires vraiment différents, mais je trouve ça vraiment beau en fait qu'on ait ces moments où on puisse être autour de la table, parler pendant des heures le soir, malgré notre différence, le fait de pouvoir s'apporter en fait, nos points de vue, enfin que nos points de vue, en fait, ça enrichit la conversation. J'ai l'impression que par rapport au temps avant, on est beaucoup moins dans un jugement de « ah bah lui, il est vraiment pas comme moi, donc je le juge, c'est pas bon », mais on est vraiment dans une… Ok, bah il est comme ça, je pense pas pareil, mais tu ne veux pas poser un jugement. Du coup, ça ouvre. On se rend compte que l'autre, en fait, c'est un point de vue. Et en fait, c'est juste une richesse comme ça quand on met tous ces points de vue ensemble.
Et du coup, en étant connecté à cette richesse intérieure, toi, tu l'exprimes, tu la vis. Et derrière, ça te permet aussi de la reconnaître chez les autres. et de pouvoir te nourrir de ce que eux ont apporté par rapport à... Oui, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir quand tu es en train de discuter avec quelqu'un qu'on pourrait dire de passionné par ce qu'il fait et quelqu'un qui ne l'est pas. Du coup, tu sens qu'il y a, tu sens que ça vibre ce qu'il est en train de te dire. Quoi. Il pourrait même te parler d'un truc qui, toi, ne t'intéresse pas du tout. Comment est-ce qu'on fait de la métallurgie, par exemple. Tu vois, moi, ce n'est pas le truc de base qui m'intéresserait, mais je suis sûr que je rencontrerais un passionné en métallurgie qui pourrait me,
ça, c'est
que je pourrais me dire, il faut absolument que je fasse un podcast d'une heure trente pour parler de métallurgie parce qu'il y a un truc dedans à aller creuser. Quoi.
Tellement.
Mais c'est... parce que ouais, parce que ouais. Parce que derrière le sujet, en fait, il y a l'énergie de la personne, quoi.
Il y a l'amour, en fait. Je pense que c'est vraiment une question d'amour. Il y a cet amour pour le sujet, il y a cet amour pour ces idées, en fait, que tu sens que c'est vivant.
Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui serait très rationnel, tu vois, qui dirait moi, pour que je sache ce que je dois faire dans ma vie ou ce qui m'intéresse, il va falloir que j'y réfléchisse, que je prenne le temps de m'y poser, que j'analyse, que j'essaie de trouver le truc. Et après, tu me dis qu'il y a une voix intérieure, mais moi, je suis pas croyant. Comment j'entends rien, moi, quand il y a à l'intérieur, tu vois. J'entends juste mon cerveau qui me parle, mais il n'y a rien à l'intérieur de moi. Yes. Qu'est-ce que tu dirais?
Je citerai une citation d'Einstein que je ne connais pas exactement, mais
c'est
il disait un truc du style, en faisant les mêmes choses, qu'on répétera les mêmes... En faisant les mêmes choses, on a toujours les mêmes habitudes, les mêmes résultats. Et en fait, quand on est branché sur notre cerveau rationnel, analytique, on sera toujours sur des choses qui ont déjà été faites, des choses qui viennent identifier au passé. Et moins ouvert à l'impermanence des choses, au mouvement. Et ça, c'est très rationnel. Je suis désolé, il suffit de voir une journée, le déroulement d'une journée. Là, tu vois, je vois, il y a des personnes qui... Il y a un gars qui se pose, qui fume sa clope, qui bouge, peut-être qu'il réfléchit, peut-être que sa vie en lui, ça bouge, il se pose plein de questions. Là, il y a un gamin qui s'amuse dans le parc. C'est un mouvement, ça bouge continuellement. Les choses sont en expansion. Ça ne fait que bouger depuis des millénaires. Et être... en mode analytique et rationnel, essayer d'être trop... Moi, tu vois, comme tu me dis ça, j'imagine la personne qui va être, tu vois, qui va froncer le front, et qui va se poser derrière un bureau, et qui va essayer de trouver la solution, tu vois. Et tu vois, je force, tu vois. Et je pense pas que ça soit une façon finalement naturelle de trouver des idées, de... Parce qu'il y a une force, en fait... Je trouve que cette façon de penser, de voir un peu le monde, c'est comme si on voulait figer les choses pour que ça soit plus rassurant, plus sécurisant. Et se dire, ok, en fait, je vais écouter mon intérieur et peut-être que je vais avoir des idées, peut-être que ça va me mettre sur des chemins qui sont un peu dangereux. Enfin, ça, c'est ça, dangereux entre guillemets, inconfortable. Ça, c'est pas sécurisant, en fait. Et je me suis un peu perdu. Du coup.
Non, ça va.
Ok. Mais du coup. Justement, l'inverse de cette personne qui est derrière son bureau en mode alors tac, petit pas, mais si je fais ça, tac, et je force, c'est tout l'inverse de, je sais pas, se poser, imagine, t'es dans ton bain, et là t'es relaxé, et là t'as l'idée de ouf qui vient, l'idée qui va propulser ton business ou qui va pouvoir changer la société. La plupart des grandes idées, elles sont venues comme ça en fait. Vraiment, c'était. Thomas Edison, lui, il faisait comme ça énormément. Moi, ça me fascine. J'ai étudié la vie de pas mal de créateurs. Beaucoup de créateurs trouvent leurs idées en étant détendus dans la nature, en faisant une balade ou dans leur bain. Le bain, ça marche vraiment. Ça montre bien qu'à un moment donné, c'est quand tu lâches prise sur le résultat aussi, quand tu es vraiment relaxé, tu es vraiment tout détendu. Là, tu peux être en mesure justement d'écouter, d'entendre cette petite voix intérieur qui est, mais tu vois, c'est même pas perché tout ça, parce que cette petite voix, elle est reliée au subconscient. Le subconscient, c'est quoi? C'est ce qui fait battre. Regarde ton bras, t'as le sang qui coule. C'est pas toi qui choisis de faire couler ton sang, c'est quelque chose qui est plus loin que toi, c'est ton subconscient. Et quand t'as une idée qui te vient, c'est ton subconscient qui te donne la super idée. Et d'ailleurs, j'ai envie de partager une technique qui est vraiment cool pour trouver des idées, qui pourra peut-être et t'aider, toi qui nous écoutes,
ouais.
C'est justement de poser une question. Poser une question, avoir une sorte. Alors voilà, je vais faire des étapes. Tu vois, tu fais une liste de bugs. Des choses dans ta vie qui. Il y a un bug. Par exemple, dans mon cas, c'était comment publier, sortir mon album Activation Vibratoire, enfin un album de musique méditative, de façon un peu originale, pour pas faire comme les autres, mais voilà, de faire un peu un truc original. Donc c'était vraiment une problématique, je ne savais pas comment j'allais résoudre. Donc voilà, tu cibles ta problématique, et puis là, tu prends un moment, ça peut être dans ton bain ou dans la nature, ou tout simplement sur un canapé, et là, tu peux te mettre de la musique ambiante, ça, c'est bien propice à ça. Et juste, en fait, tu lâches prise sur le résultat, limite, tu t'en fous, en fait, tu t'en fous du résultat, mais tu fixes juste en arrière-plan, tu gardes cette question en tête et là tu laisses venir comme si t'avais un radar qui balayait qui faisait fou, qui ouais. balayait et là tu balayes un petit peu la zone, tu balayes tes idées, tu et sans vraiment chercher en fait et là t'es dans un mode où tu vas avoir accès en fait à beaucoup plus de données, beaucoup plus de choses et ça va te permettre de faire des connexions entre des choses et de trouver une solution créative à un problème qui peut paraître des fois impossible. Ouais. Et par exemple, dans mon cas, ça, j'ai trouvé l'idée de l'album que je vais sortir dans ce cadre-là, ce contexte. J'ai trouvé l'idée de proposer un événement sur 8 jours aux personnes pour découvrir l'album. Donc chaque jour, il y aura une musique qui va sortir et je vais proposer aux personnes d'écouter l'album en méditation, en écoute active. Et ça, cette idée-là, exacte, avec vraiment le plan sur comment j'allais faire, j'aurais pas pu l'avoir si j'étais resté la tête dans le guidon. Si je m'étais pas créé dans mes routines des temps résolution de bug, j'appelle ça comme ça, résolution de bug.
Résolution de bug, intéressant.
Des temps. Donc, faire des choses qui peuvent, et tu vois, genre être posé sur un canapé, écouter la musique et comme ça un peu la tête. Enfin, voilà. Enfin, ça peut paraître contre-productif. Et finalement, ça a apporté une idée auquel j'aurais pas pu penser si j'étais en mode très rationnel, très. Alors. En partant de ça, alors ça marche, ça. Dans un aspect plus analytique, ouais. J'aurais pas pu, difficilement pu trouver une solution aussi originale en fait.
Et ça rejoint pas mal de recherches que j'ai faites aussi récemment justement sur l'inconscient. Après, j'ai pas encore exactement la différenciation entre le terme subconscient et inconscient, mais pas obligé de rentrer dans le détail de tout ça, mais pour dire qu'il y a. Il y a des couches de conscience et du coup il y en a une qui est rationnelle et du coup ben tu l'utilises pour pouvoir structurer les choses que tu es censé faire, mais les choses que tu es censé faire, un peu comme toi, la manière de communiquer, en fait c'est pas ton rationnel qui est censé la créer, c'est une autre intelligence qui est en dessous et qui elle fonctionne complètement différemment que l'intelligence rationnelle. Et le seul moyen pour que ça puisse rentrer dans le rationnel, c'est qu'il faut lui laisser la place. Donc, comme tu dis, arriver à créer des temps pour ne rien faire et ou distraire ton mental, un peu comme pour l'hypnose, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir une sorte de trou qui passe à travers, en fait, et du coup, ça puisse redescendre dans d'autres couches. Ouais. Et du coup, ce que je trouve vachement intéressant là-dedans, c'est que ça va à contre-pied complètement de cette société, justement, comme tu disais au début, à 17 ans, là, un peu froide, un peu violente, un peu forcée, un peu désagréable, quoi, qui est au final une société qui est basée sur le rationnel quasiment à 100%, quoi.
Et qui s'auto-programme inconsciemment à sa destruction, dans l'idée. Enfin, je sais pas, on regarde le cinéma, on regarde les jeux vidéo, on montre que la guerre, une humanité post-apocalyptique, un effondrement et tout. Et quelque part, ça te programme de croire ça dans cet environnement, ça joue sur ton subconscient. Et moi, ce qui me fascine, c'est de me dire, ok, donc là, si des personnes travaillent sur leur subconscient, qu'elles décident de vraiment avoir des nouvelles croyances et qu'elles font ce travail aussi tous les jours pour se reprogrammer, entre guillemets. Eh ben, si là tous, si l'humanité le faisait, l'effondrement, il sera vraiment, il va vraiment se passer en douceur, parce que oui, il va en avoir un, mais ouais. il se passera vraiment beaucoup plus en douceur que, enfin, très, même, enfin, en fait, on peut même pas imaginer comment ça serait, en fait. C'est même pas qu'il y avait, on peut même pas l'imaginer. Et moi, ça me fascine de me dire ça, de me dire que si on peut. Je sais pas, un jour quelqu'un va avoir une idée de dingue qui va pouvoir tout faire changer, ou un groupe de personnes ensemble qui vont, enfin, il y a plein de possibilités. Et
mais il faudra accepter que l'intelligence peut-être la plus forte, la plus puissante qu'on est, ça soit cette intelligence qui vient du subconscient. Et que du coup, le nouveau jeu des humains, ça serait de se dire bah, comment on se démerde pour faire en sorte qu'on trouve le moyen de laisser passer cette intelligence-là, plutôt que continuer à essayer de fabriquer des trucs avec notre rationnel qui est censé faire en sorte de régler nos problèmes ou de créer des trucs, quoi. En essayant de faire des choses pour changer les choses, on est en train de bloquer notre grosse intelligence avec notre rationnel, alors qu'en fait, il y aurait juste peut-être à se mettre tous d'accord pour se dire à partir d'un moment, on ne fout plus rien, mais pendant un certain temps, on ne fait plus rien, et puis paf, et ben en fait, on va capter ce qu'il faut faire.
Oui, grave.
Peut-être.
Une idée qui va même carrément dans ton sens, c'était l'idée de tu prends une semaine, c'est un truc qui est imposé pour. Et là, clairement, on sait tous en France, on est dans une transition. Même dans le monde, mais il se passe des choses. Tous, on le vit. Donc, on va prendre, on va imposer un peu comme le service militaire, mais enfin, c'est une idée. Tu loues une baraque en France, dans des campagnes, et dedans, tu as 10 personnes, tu réunis 10 personnes, je sais pas, un boulanger, un artiste, un codeur, des personnes totalement différentes, et elles doivent être ensemble une semaine, et tu il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas, il n'y a rien à planifier, il n'y a pas d'objectif. Le seul objectif qu'il pourra avoir et qui pourra mettre tout le monde d'accord, c'est alors comment ça se passe pour le futur, comment on travaille pour la transition, comment on fait. Et là, tu laisses venir les idées, il y a des choses qui vont se passer, sachant qu'on est c'est un cadre qui a le temps. Parce que souvent, ce qui empêche aussi de trouver des idées, c'est que notre vie, Elle est timée, et du coup, tu peux difficilement t'arrêter. En fait, je disais parce que j'avais fait une expérience un jour de 100 ans, de vivre 5 jours sans notion du temps. Et je m'étais retrouvé dans un Airbnb, enfin, c'était un lieu où il y a pas mal de personnes. Et vu que j'avais pas de temps, je me suis retrouvé à parler avec un gars pendant super longtemps. Alors que si j'étais encore dans mes habitudes traditionnelles, ben j'aurais pas pu parler aussi longtemps parce que j'aurais programmé des choses et j'aurais dû aller. Et je me suis rendu compte que. En n'ayant pas de temps, j'ai pu vraiment rentrer en profondeur et comprendre des choses chez cette personne. Et du coup, je me suis rendu compte que, vu que j'avais pas notion du temps, j'ai vraiment pris mon temps à discuter avec cette personne qui était très différente, qui partageait vraiment, qui avait des opinions vraiment contraires aux miennes, mais du coup, on a vraiment pu échanger. Et je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est excellent. Parce que peut-être que ce qui empêche aussi la transition et l'avènement d'une société plus harmonieuse, vraiment quelque chose, c'est que si les gens ne se rencontrent pas assez, ils prennent pas conscience des différences, on prend pas trop le temps de s'ouvrir à l'inconnu, parce que justement notre vie est vraiment timée, tu vois. Et que si on proposait ou imposait, je sais pas, non, mais faut pas imposer, faut que ce soit une dictature, c'est le mec. Non, mais que ça soit même sexy, tu vois, on a envie de le faire, on se dit, ah ben trop bien, là voilà, c'est nouveau, maintenant en fait, on est tous conscients, on sait qu'il va y avoir un effondrement, on sait que sa société elle va devoir être transformée, donc en fait, il y a une petite solution, il y a une idée qui a été lancée, on se retrouve avec des personnes qui sont vraiment différentes, et on passe une semaine ensemble, sans avoir notion du temps, sans rien planifier, et on prend du bon temps, et on discute et après, il faut qu'il y ait un peu des sortes de systèmes aussi pour récolter des informations. Enfin, en fait, l'idée, c'est…
On fout rien, on est avec plein de gens qu'on ne connaît pas, on fout rien et on voit ce qui se passe et on se débrouille pour documenter ce qui…
Mais voilà, mais qui est quand même un côté rationnel. Parce que moi, j'adore ça, les systèmes en fait, la création de systèmes, de choses, de process qui peuvent, quand tu es un créatif, quand tu es un petit peu dans l'air… T'as plein d'idées, ça peut t'aider à te structurer en fait. C'est pour ça que moi je suis pas que pour non plus faire confiance à l'intelligence d'arrière-plan. Je suis pour utiliser les deux en fait. Mmh. Et je pense que pas. Bref, du coup, je sais plus trop pourquoi on est parti là-dessus, mais je pense que ça peut être. C'est quelque chose qui n'a pas été fait avant. Et il faut tester des choses nouvelles parce que c'est comme ça qu'on aura des nouveaux résultats.
Pour rejoindre ce que tu disais, tester des choses nouvelles, ça serait peut-être justement de. J'aime bien tout le temps utiliser cette formule, même si je l'utilise du coup pas dans le bon sens, mais le côté penser autrement pour faire autrement. En fait, là, le penser autrement, ça serait carrément de se dire au lieu d'utiliser que le rationnel, avec des méthodes, des tonnes de principes et des choses comme ça, et ben là, on utilise. L'autre, enfin on laisse la place à l'autre forme d'intelligence qu'on a, qu'on ne laisse jamais s'exprimer, et du coup pour qu'elle puisse s'exprimer, il y a juste besoin d'être. avec une diversité de personnes,
voilà.
D'avoir rien qui est programmé et qui est timé, et un laps de temps suffisamment long pour qu'il puisse émerger des trucs. Et après, on se sert du rationnel, mais juste pour récolter en fait ce qui est sorti, quoi.
Et pour structurer.
Et pour structurer a posteriori, mais pendant l'expérience. L'expérience, c'est juste on kiffe et puis
plus dans ce sens-là.
On voit ce qui se passe, quoi.
Partir, c'est comme si voilà, partir du cœur, partir de l'expression libre, partir du mouvement, du chaos, un petit peu de choses qui vont dans tous les sens, et après tailler avec dans le rationnel. C'est ce que font beaucoup, par exemple, les personnes qui vont écrire des articles. Écrit une idée qui dit écrit bourré et rédige sobre.
Ah oui.
C'est l'idée de tu vas écrire, tu vas exprimer comme ça de façon très libérée toutes tes idées et après tu vas y revenir et tu vas mettre de l'ordre, tu vas le rendre plus, tu vas vraiment le rendre beau. Et peut-être que en ce moment on a besoin de ça un peu.
Ouais.
Enfin, du coup, tu l'as bien résumé.
En tout cas, toi, tu participes à ça en accompagnant les gens pour déjà qu'ils arrivent à faire en sorte de se donner du temps à eux pour au moins entendre ce qui se passe à l'intérieur d'eux, quoi.
Et que ça soit plus léger, être moins accroché au passé aussi, parce que c'est ça le problème. J'avais fait une conférence en méditation et j'avais pris des petites gommettes de dinosaures que j'avais mis dans une boîte. Et à un moment donné, j'avais sorti la boîte et j'avais fait tomber les... Enfin, je disais que chaque gommette, en fait, c'était nos petits dinosaures intérieurs. C'est nos pensées, en fait. Mmh. Et je faisais tomber la boîte et je disais, voilà ce qu'on fait quand on médite. On vide la boîte de dinosaures, on laisse aller les vieilles pensées, les pensées dinosaures. Et je disais que l'humanité, en ce moment, elle est peut-être dense. Elle a peut-être beaucoup... Elle a ses pensées de dinosaures à lâcher en fait, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau.
C'est marrant parce que tu parles de l'humanité comme si tu étais en train de parler d'une personne. Pour toi, est-ce que du coup l'humanité c'est comme une espèce de,
ouais, mais c'est,
de personne unique?
Au fond, ouais. On est vraiment relié. Oui, oui, bah, c'est ça. Il y a l'humanité. Mais c'est comme nous, regarde, toi, il y a énormément de vie en toi, je crois que toutes tes cellules. J'ai entendu ça, c'est des vies à part entière en fait. Mmh. Et enfin, pour moi, c'est ça, il y a l'humanité qui fait un, et dans cette humanité, après, il y a l'individualité. Et l'individualité évolue, et du coup, ça se répercute sur l'humanité. Et, au final, tout c'est relié en fait. Enfin, du coup, j'ai un peu du mal à expliquer.
Ça, c'est des trucs qui sont durs à expliquer.
Ouais, j'aurais pas dû partir là-dessus.
Ce ressenti sur... Non, mais c'est super intéressant. Okay. Mais c'est vrai que là, on rentre sur une dimension rationnelle et difficile parce que c'est limité, voilà, par le langage aussi. Mais je comprends bien ce que tu veux exprimer parce que je le ressens aussi. Là, juste après, pour ceux qui écoutent, j'anime une conférence moi aussi sur la pensée systémique et la pensée complexe. En fait, c'est un mode de pensée qui te... Enfin, que quand t'es dedans, après, tu peux pas revenir en arrière et que quand tu l'as touché, en fait, après, t'es foutu parce que ça te fait te sentir justement complètement lié à un truc qui est beaucoup plus gros que toi et duquel t'es juste une toute petite partie où tu portes quand même ton individualité un peu comme tu l'expliquais juste avant sur le fait que chacun a un peu sa voix intérieure qui lui dit tiens, toi tu dois faire de la guitare comme Jimi Hendrix ou toi tu dois aller répandre la bonne parole de la méditation comme Gandhi ou autre chose, ou être boulanger ou peu importe, quoi, ou être maire d'un village.
C'est ça.
Mais en fait, cette information qui remonte là, c'est pour te dire tiens, par rapport à ce tout, ta place elle est là parce que du coup tu y seras bien. Et en même temps, le fait que tu sois là, ça fera en sorte que les autres autour ils soient bien et que du coup, cette espèce de gros organisme global, il fonctionnera bien. Un peu comme tu disais, les cellules du corps qui, au final, ont leur conscience propre et elles sont à un endroit particulier parce qu'elles doivent y être et elles y sont bien. Et si jamais elles sont pas exactement synchronisées avec les autres cellules avec lesquelles elles sont à côté, c'est à ce moment-là où ça déclenche des problématiques type des tumeurs ou des amas de cellules malades ou des choses comme ça. C'est juste parce qu'elles sont plus synchronisées avec le reste de l'organisme et que nous, on est aussi juste des cellules d'un grand organisme avec lesquelles on doit se synchroniser ou sinon on est malade.
C'est super intéressant. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec le corps, c'est pour ça aussi que la méditation est géniale. C'est qu'il y a un exercice de méditation, une pratique, c'est de faire des scans corporels. C'est de vraiment sentir toutes les parties de son corps et d'y apporter de l'amour. Ça peut être de l'amour ou une intention positive, on appelle ça comme on veut. Mais c'est vraiment pour justement ressentir tout son corps ensemble, hein, et aimer chaque partie de son corps. Et ça me fait penser au parallèle avec l'humanité, où peut-être que c'est aussi l'invitation de aussi là aimer vraiment toutes les parties de ce grand corps de l'humanité. Parce que sinon ça marche pas en fait. S'il y a des parties laissées de côté, pour que ça fonctionne bien, comme tu dis, il faut qu'il y ait une harmonie. Et c'est personnel, la méditation et toute cette ouverture autour de la spiritualité m'a appris vraiment à reconnaître que l'autre, c'est un autre moi en fait. Que l'autre est, et que du coup, si je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi. Et que du coup, c'est important que je m'aime en fait. Et que du coup, que je m'apporte de l'amour. Et comme ça, j'arrive plus facilement à aimer les autres.
Ça me paraît plutôt pas mal comme, comme conclusion et comme programme.
Super.
Et pour finir, moi, je voudrais te demander si tu serais d'accord pour proposer peut-être une petite conversation justement avec l'inconscient des gens qui écoutent le podcast. Une petite méditation guidée justement pour que là, vu qu'on a fait pas mal de bêta, et ben les gens puissent peut-être finir le podcast avec une fréquence différente, alpha ou
carrément bêta. Et peut-être que on pourrait faire ça avec le handpan
si tu veux,
vu que avec, j'ai remis mon handpan
avec plaisir. Tu peux faire ça
au top du coup.
Voilà la fin de cette première partie en mode bêta. Voilà, on était sur la fréquence de la discussion, sur la fréquence du rationnel. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis déjà rentré dans un état un peu plus alpha, justement, un peu plus calme, un peu plus ouvert à accueillir ce qui peut survenir au-delà de ma réflexion et peut-être juste par mon corps et par mon ressenti. Et c'est justement tout le propos de cette deuxième partie où Jordan va nous improviser une composition de Hang qu'il a amené justement spécialement pour l'occasion. Voilà, il va jouer, il va aussi vous guider dans cette expérience avec sa voix, il va vous amener à voyager à l'intérieur de vous-même, il va vous amener peut-être même sur un état theta. Je vous en dis pas plus, justement, il n'y a plus rien à dire. Il y a surtout à ressentir, donc installez-vous confortablement dans une banquette, dans votre vin, allongé dans votre bain, allongé tranquillement, sinon sur votre lit. Et puis, je vous laisse pendant ces 10 minutes, un peu plus, avec Jordan.
T'asseoir en gardant le dos droit. Et là, simplement revenir à ta respiration. Inspirer par les narines. Et il n'y a aucun objectif, rien à atteindre. Simplement être, se sentir vivant cet instant, et peut-être que des pensées arrivent, si c'est le cas, tu peux simplement ramener ton attention sur ta respiration ou sur la musique qui est improvisée pour toi. Thank you. peut-être qu'au fur et à mesure que tu respires, tu sens ton corps qui se détend, les tensions qui disparaissent d'elles-mêmes. Dès qu'une tension apparaît, le simple fait d'en prendre conscience la fait disparaître. Thank you.
d'écouter une séance de méditation en musique avec Jordan, complètement improvisée pour l'occasion. Et là, je pense que je suis un peu plus proche de l'alpha que du bêta. Merci Jordan.
Ça se voit dans tes yeux.
Ça se voit. Ouais, c'est ça, souvent, cool. Ça va, ça flatte un petit peu. Et je me dis, si on ne devrait pas commencer comme ça, je pensais quand même un petit peu au début du hang. Ah, tu vois, je me dis, peut-être qu'il faudrait commencer comme ça, en fait, des fois, les podcasts. Comme ça, du coup, la discussion, c'est complètement différente derrière, avec deux personnes un peu flottantes. Mais du coup, ça donne une autre énergie. Peut-être même des personnes qui écoutent, si elles sont posées dans leur banquette ou dans leur bain, je sais pas où, mais ça peut être sympa. Quoi. Et ben, écoute, on va pouvoir faire la conclusion ensemble. C'est cool. Merci pour tous ces échanges, pour ces réflexions comme pour ces moments en musique.
Merci de m'avoir invité.
Et comment ils font les gens pour pouvoir te suivre, ou comment est-ce que les gens ils peuvent te retrouver? Est-ce que tu as des événements prochainement?
Ok. On peut me retrouver en tapant Harmony Vibes sur YouTube ou sur Facebook. Et j'ai un site qui s'appelle harmonyvibes.fr, donc tout attaché. Et en ce moment, j'envoie un mail par jour avec soit un podcast ou des vidéos. Ça, c'est un point qu'on n'a pas discuté, mais j'adore faire circuler l'information et j'aide les créateurs d'harmonie. Donc, je partage énormément de conseils, d'astuces, de méthodes autour de la création d'harmonie. Donc, si tu as envie de recevoir un petit peu ces mails, tu peux t'inscrire sur harmonyvibes.fr. Et sinon, le 13 novembre, je donne une conférence méditative au Handpan. Ça s'appelle la puissance du subconscient, comment l'utiliser. Et là, je vais vraiment te donner tout ce que je sais à propos du subconscient. Et j'ai envie de créer une conférence, pas comme les autres, une conférence où je vais je vais transmettre des infos, et il y aura des moments en live pour implémenter ce que, par exemple, écrire, proposer aux personnes qui sont là, d'implémenter ce que je vais leur proposer. Et pendant ce temps-là, je jouerai au Handpan. Donc c'est à la fois une conférence, c'est à la fois un moment où je vais faire découvrir mon premier album au Handpan, et un moment pour les personnes qui vont venir, de travailler en live directement sur leur subconscient. C'est-à-dire qu'à la fin de la conférence, vous aurez déjà implémenté des choses. Voilà. Donc super. Ça, c'est le 13 novembre.
Le 13 novembre, mais ça se passe où?
À l'outil, la salle de l'outil. La salle de l'outil, qui est un espace de bien-être.
D'accord.
Et voilà.
Ok. Écoute, Jordan, merci encore.
Merci
une fois.
Beaucoup.
C'était vraiment cool. Et pour vous qui écoutez, comme chaque conclusion, n'hésitez pas, bien entendu, pour qu'il y ait plus de gens qui écoutent, de faire un petit tour sur les différents outils de podcast pour mettre des petites étoiles, parce que dans le monde dans lequel on est, très rationnel, il y a besoin d'avoir des étoiles pour que ça puisse ne serait-ce qu'être visible pour la plupart des gens. Donc voilà, si vous voulez participer, vous pouvez mettre des petits commentaires ou des petites étoiles. Et puis voilà, écoutez, amusez-vous bien avec votre inconscient. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Jordan et d'Harmony Vibes pour suivre son événement. Et puis écoutez du hang, parce que ça fait du bien, c'est cool. Voilà, allez, à bientôt tout le monde.
Salut.